Nous accueillons Danny Dubé. Bonsoir, Danny.
Salut, Mario.
Ce que je disais, c'est que le match d'hier s'est terminé de façon semblable au match numéro 1, sans comparer l'allure des deux matchs. C'est que les deux équipes qui ont perdu les matchs ont eu l'occasion de créer l'égalité dans les tout derniers moments. On a une série, ouais. C'est officiel, Danny.
Oui, je ne sais pas encore si ça va être une série qui va aller en 7.
Moi non plus.
Là, c'est drôle comment les choses... Tu peux avoir une série qui se termine en 5, mais en 5 matchs serrés, là, si je ne sais pas. Moi, il y a quand même quelques éléments qui ont retenu mon attention. Hein, le 5 contre 3 qui n'a pas rapporté. Ça, c'est sûr que Vegas s'en voulait là-dessus. Ils ont eu un long 5 contre 3. Ils n'ont pas été vraiment menaçants. C'est peut-être la première fois que je les vois avoir l'air nerveux. Depuis le début des séries, j'ai pas senti ça de cette équipe. Et là, j'ai senti une certaine nervosité au moment où ils avaient l'occasion de revenir dans le match. Je te donne une idée, Mario, de l'importance qu'on accorde au premier but, mais surtout à prendre le contrôle du match. Quand tu tires de l'arrière, là, ton hockey, c'est pas le même genre de hockey que tu vas jouer.
Ils ont pourtant pris les devants, mais je saisis totalement ce que tu veux dire. Et en même temps, ce qui me vient en tête quand tu fais ce commentaire-là, c'est qu'on a beau dire aux gars « amusez-vous, amusez-vous », puis c'est la ligne de Gérard Gallant quand il finit son discours. C'est correct pour les Kodak, puis les médias, puis l'imprimé, là, mais dans la vraie vie, là, la coupe est là. Là, tu sais, t'es en finale, Danny. Fait que t'as beau te dire « amusez-vous », les gars, ils pensent, là.
Ben, dans n'importe quelle situation où tu arrives au fil d'arrivée, que ce soit dans une course, que ce soit quelques jours avant de partir en vacances, que ce soit quand tu mets un long travail et tu es terminé ces dernières choses que tu as à faire qui vont faire que on dirait que c'est toujours plus long, plus difficile, plus ardu quand tu arrives à la fin. C'est plus difficile de gagner le dernier match. Les joueurs le disent tous, les entraîneurs aussi. Ça va être le cas pour les deux formations. Mais écoute, moi, c'est drôle, hein? On parle tous de Obi comme étant le héros, puis c'est tout à fait normal parce que l'arrêt qu'il fait est sensationnel contre Toc, et on va en parler, surtout s'il gagne la Coupe Stanley pour tout l'été. Mais moi, je pense que le héros futur de ce match-là, c'est Lancelot. Avec quand Kuznetsov a tombé au combat, lui...
Danny, je t'interromps. Excuse-moi, parce que la ligne téléphonique n'est pas de très bonne qualité. Je sais pas si tu peux bouger. On va prendre une chance là, d'un pas ou deux. Là. On l'a pas facile ce soir. Mais c'est très intéressant ce que tu disais par rapport à Lars Seller. Et on continue, Danny. On va voir si ça sort bien.
Alors, ce que je disais, c'est que Lars Seller, pour moi, c'est le héros obscur de cette rencontre-là. Parce que un peu comme ça s'est produit lors de la blessure de Backstrom, et lui, c'est lui le pompier, là. Lui est arrivé en relève et puis il a fait vraiment une différence dans le match.
Mais tu le sentais motivé, c'est arrivé dans l'autre série également, Danny, quand Backstrom a manqué des matchs, rappelle-toi.
Oui, je t'entendais un peu plus tôt avec Paul, puis c'est... S'il y a quelque chose qu'on peut retenir de Lars Eller, c'est son sens de la compétition. Tu sais, tu peux aimer, pas aimer l'individu. À l'occasion, là, comme on dit chez nous au Québec, il est un bougonneux de temps en temps. Là, puis les affaires ne marchent pas tout le temps à son goût. Mais écoute, il livre. Quand c'est le temps de livrer, il livre. Il donne ce qu'il a à donner. Et moi, écoute, c'est un joueur qui est extrêmement précieux pour Barry Trotz. On s'en rend compte. Écoute, c'est lui qui organise le jeu là, sur le but de
Ovechkin.
Et puis, écoute, c'est pas un vrai troisième centre. C'est un deuxième ennemi. Là, on voit qu'il manque un peu de vision de jeu à l'occasion, mais c'est un travailleur acharné. Puis quand il n'y a pas d'espace, comme on le voit en série, écoute, c'est un joueur qui devient encore plus important dans la profondeur que tu amènes dans ton alignement. Et là, la question, on se pose, est-ce qu'il va arriver avec Kuznetsov d'ici la fin de la série? Tu sais, qu'on nous dise ou qu'on nous dise pas qu'est-ce qu'il y a, qu'il joue ou qu'il joue pas, on sait une chose, il y a un poignet mal en point. Là.
Clairement. Bonne nouvelle pour les Caps, c'est qu'au moins Backstrom, lui, qui recevait les félicitations après un but des Caps avec sa main gauche, a recommencé à le faire avec sa main droite.
C'est vrai.
Non, mais petit détail, là, mais parce que là, si tu perds Backstrom et Kuznetsov, il te reste 3 matchs à gagner. Là, c'est toute une commande. Mais, comme tu viens de le mentionner, quand tu as des gars, même ton équipe, qui sont prêts à en prendre plus et qui attendent probablement une opportunité comme ça. Peut-être que c'est un gars qui, sur une longue période, à un moment donné, pourrait pas remplacer ces gars-là. Mais
non.
Puis Eller, je pense que tu es plutôt d'accord avec moi, Danny. même à Montréal, pour les gens, c'était ça l'essence de mon propos, là, quand on en a parlé pendant ces séries-là, puis tantôt avec Paul, c'est qu'il a toujours été combatif, puis en série, il a toujours grimpé d'un cran. Tu le cherches pas sur la glace, Heller.
Non, exactement. Puis même le soir où il marque pas de but, tu sais qu'il va être au rendez-vous, il va travailler, il va donner ce qu'il a à donner. Puis, les gens, là, lorsqu'on regarde un joueur, puis là, on parle de Lars Eller, mais on peut parler de n'importe quel joueur dans la Ligue nationale.
Bien sûr.
Vous pouvez regarder autour vos collègues au travail, regardez-vous aussi dans le miroir. Là. Ça vient tout d'un morceau, c'est un package. Là.
Mm-hmm.
Ça vient jamais. c'est jamais parfait. Chaque joueur a ses facettes, a ses côtés un peu plus difficiles à gérer. Dans le cas de Lars Eller, à Montréal, c'est simple. Lui, il revendiquait un rôle qu'il croyait pouvoir remplir. Donc, on lui donnait un statut de troisième joueur de centre parce qu'on regardait l'architecture à plus long terme avec le Canadien. Je pense que l'évaluation qu'on avait faite de lui, c'était la bonne évaluation. Mais moi, je reviens toujours à la même équation, Mario. Puis je pense que c'est un peu ce qui est au cœur des problèmes du Canadien depuis quelques années. C'est que si tu as un joueur que tu penses qu'il peut être un troisième centre dans une très bonne équipe, mais que toi, tu n'as pas une bonne équipe, ben donne-lui donc le rôle de deuxième centre. Rien de mieux. Fait que Dundee, de toute façon, lui, il va chialer, il va dire écoute, je suis aussi bon qu'un tel, puis un tel. C'est exactement ce qui se passe, ce qui s'est passé dans plusieurs situations. Alors, des fois, là.
On s'entend. C'est d'être borné aussi que de dire, Danny, tu sais, avant même de l'avoir vraiment testé, de dire lui, ce gars-là, il ne pourra jamais jouer ses deux premières lignes. Tu sais, c'est dangereux de dire ça sur quelqu'un. Même si c'est probablement vrai, comme William Carlson nous le démontre du côté de Vegas.
Mario, là-dedans, là, on regarde ça froidement. On dit, oui, on va lui donner la chance, mais il faut jamais que tu perdes de vue l'environnement dans lequel le joueur il est.
Mm-hmm.
Parce que...
C'est devenu toxique pour lui.
C'est ça. L'environnement que tu as à lui offrir, c'est ça. Alors, s'il peut être un contributeur de deuxième trio, moi, je me souviendrai toujours, à un moment donné, à Brian Burke, à l'époque, il était avec Toronto, puis... Tyler Bozak venait de signer avec l'équipe, puis là, les gens disaient « Ah, écoute, c'est un gars qui va pouvoir amener de l'offensive, jouer sur les deux premiers trios des Leafs, qu'est-ce que vous en pensez? » Tout ça, ben, ils disent « On l'a signé, Tyler Bozak, on pense que c'est un joueur qui peut aider l'équipe, mais faites-vous pas de cachette, là. Lui, actuellement, il va jouer sur nos deux premiers trios parce qu'on n'est pas encore une bonne équipe. »
C'était clair, en tout cas, ça avait le mérite c'était d'être clair, puis c'était lucide.
Alors,
aussi.
Cette année, il a joué sur quelle ligne? Il a joué sa troisième ligne. C'était le troisième joueur de centre des Leafs de Toronto, puis les Leafs, cette année, avaient une bonne équipe.
Mais il faut dire qu'ils ont réussi à amener des joueurs de centre, ce que le Canadien n'a pas réussi à faire, Danny. Et sais-tu quoi? Mais par contre, ils se sont accrochés, puis je ne fais pas le procès de Plekanec, tu sais, ça fait 3 ans que je n'ai pas cassé de sucre, puis j'en casse pas, puis je l'apprécie. Mais, tu sais, à un moment donné, ils se sont accrochés avec le vétéran Plekanec, une année, plutôt que de faire de la place à un gars comme Heller, tu sais, c'était un peu ça. Lui, il regardait ça, les deux premiers, il se dit, hey, pourquoi moi, je joue pas? Est-ce que c'était légitime qu'il le réclame?
Ben, écoute, on est dans cette espèce de dynamique-là, puis je pense que, des fois, là, t'es mieux avec ce que t'as à l'interne de donner les chances à ces joueurs-là, puis sachant très bien que si c'est ce que tu as à offrir, c'est ce type de joueur-là, ben c'est à l'organisation de les faire, on va dire ça comme ça, régresser dans la hiérarchie en amenant des meilleurs joueurs. Puis chaque bonne équipe, c'est souvent ce qui se passe. C'est les plus jeunes qui arrivent, puis ils vont détrôner des vétérans parce qu'ils sont meilleurs qu'eux. La réalité, c'est celle-là.
J'ai envie... on n'a pas de thématique, Maxime, pour une minute positive, mais j'ai envie... Non, ça va être un 30 secondes positif. Je te lance une question. Comme quoi,
ouais.
Il faut... c'est ça la leçon de Vegas avant de démissionner sur un joueur, d'ailleurs. Penses-tu que, dans le meilleur des scénarios, avec deux bons joueurs avec lui, que Jacob de la Rose... pourrait devenir la moitié d'un William Carlson?
La moitié, ça veut dire 20 buts?
Trois quarts, vas-y, ou un William Carlson, là, je voulais pas exagérer, mais
ouais.
Tu comprends le sens.
Oui, je comprends le sens. Écoute, je suis bien embêté de te répondre, c'est une excellente question. Mon évaluation par rapport à De La Rose, c'est que je pense pas qu'il y a la qualité de tir et la vitesse d'exécution, la finesse de Carlson. Dans le sens qu'ils ont les mêmes caractéristiques, c'est des joueurs qui Ben, c'est des Suédois, donc c'est des gars qui sont très rigoureux, la défensive, le système de jeu, ils veulent pas faire d'erreur, etc., etc. Donc ça milite en leur faveur, la fiabilité. Maintenant, tu regardes combiner ça avec l'offensive, puis dans le cas de Delarose, ben, tu sais, c'est peut-être la qualité de son tir qui est pas à la hauteur de celle de Carlson, qui est un meilleur, d'après moi, qui est un meilleur tireur que Delarose. Mais est-ce que tu peux jouer sur une base régulière dans la Ligue avec des bons alliés? Je pense que oui.
Mm-hmm. Parce que, tu sais, c'est sûr, là, je suis allé chercher la comparaison avec un gars qui a une saison hors de l'ordinaire, mais si je fais la comparaison, si je te suggère la comparaison il y a un an, c'est pas farfelu, là, de... C'est à ce moment-là de l'affaire. Là, je sais bien qu'après 40 quelques buts, là, c'est une autre affaire. Mais comme quoi, il n'y a pas personne qui l'a annoncé que Carlson allait scorer 40 buts cette année, là.
Non. Mais en même temps, on pourrait se dire simplement, est-ce que Jacob Delarose est assez bon pour jouer avec Riley Smith puis Jonathan Marchessault? Tu sais, si tu veux refaire l'équation à l'envers puis la rendre encore plus simple,
Ben c'est sûr que là, il n'est pas rendu là. Il n'est pas rendu là parce que Carlson était quand même un joueur régulier de la Ligue nationale avant de vivre son éclosion. Oui. Donc, Delarose doit devenir un joueur régulier. Et ce que je te dis là, c'est peut-être dans 2-3 ans qu'on va en voir des signes. Mais il y a un tir puissant, mais pas précis. Mais bref, en tout cas, je ne vais pas passer l'émission là-dessus, mais c'est une question qui me passait par l'esprit, Danny. Et j'en avais une autre pour toi. On a beaucoup parlé de l'aspect physique des séries, des Caps de Washington particulièrement. Est-ce que tu sens que... As-tu senti des traces de leur jeu physique dans la façon dont les Golden Knights se sont comportés hier?
Un peu. Écoute, je trouve que moi, ce que j'ai trouvé hier, c'est que les Golden Knights n'ont pas été... n'ont pas eu la même... je ne sais pas, c'est comme si tout à coup, ils se sentaient comme les favoris. Ils n'ont pas joué le même genre de jeu. Ils n'ont pas joué avec la même... opportunisme, le même flair, tu sais, ils ont fait plus d'erreurs, ils étaient moins compacts, ils jouaient moins ensemble, je les ai trouvés moins serrés dans leur jeu. Puisque, je ne sais pas, mais hier, j'ai pas senti la même cohésion. Puis comme je t'ai dit, à certains moments, j'ai senti de la nervosité dans l'exécution, ce que je n'avais pas senti depuis le début des séries. Mais,
c'est normal, reste... nervosité. Quand tu regardes ça, là, les Caps de Washington, serais-tu d'accord pour dire que l'adversité, là, ben, ils l'ont vécu dans chacune des rondes qu'ils ont jouées, mais particulièrement, quand ils ont vécu l'adversité de leur première ronde contre Columbus de tirer de l'arrière 0-2, puis on dirait que ça l'a teinté le reste de leur série. Vegas a jamais eu le dos dans les Caps, Danny. T'sais, jusqu'à maintenant, c'est un conte de fées. Ils ont eu des matchs serrés, mais ils ont vogué à travers les trois premières rondes. Alors là, ça serait pas normal qu'ils gagnent la Coupe Stanley sans être poussés dans leur dernier retranchement par une fichue de bonne équipe quand même, Washington. Là.
Ben, tu fais bien de le soulever, parce que c'est sûr qu'ils ont de l'énergie, ils sont moins fatigués, ils ont moins eu d'adversité. Mais en même temps, là, ils vont être testés, c'est sûr. Quand t'es rendu en finale, ça arrivera pas. Ce sera pas une petite balade, là. Je pense, le nombre de matchs, c'est une chose, mais la façon dont les matchs se gagnent, c'est une autre. Puis, moi, je te rejoins là-dessus parce que, écoute, ce qui m'a impressionné, du côté des Caps, c'est que c'est la deuxième fois qu'ils perdent un de leurs deux premiers joueurs de centre.
Oui.
Ils ont perdu Backstrom, puis là, ils viennent de perdre Kuznetsov. On verra bien, là, mais je veux dire, leur façon de réagir dans l'adversité est extraordinaire.
Vraiment.
Écoute, c'est peut-être l'espèce de côté, de force dormante du côté des Capitals que, à cause du compte de fées de l'autre côté qu'on a tendance à sous-estimer. Je changerai pas d'opinion, là. Je pense que, à la fin, les Golden Knights vont remporter parce que les Capitals ont de la difficulté depuis le début des séries à la maison. Puis ça, ben, ça veut dire que normalement, le prochain match devrait appartenir aux Golden Knights.
Et je serais pas surpris. Washington qui a eu de la misère à gagner ses matchs à domicile en plus. Très, très intéressant. Qu'as-tu pensé de la sortie de Don Cherry en plein... Pour mettre ça dans le contexte, là, Gary Bettman n'était pas l'invité d'Hockey Night in Canada, mais il s'en va, il passe par là pour aller saluer Ron McLean et Don Cherry, quand même des vénérables du monde du hockey. Et Don Cherry commence son propos pour dire que ça prend une équipe à Québec. Ça n'a pas de prix quand même, un lobbyiste comme Don Cherry en direct à la télé hier face au commissaire, Danny?
Pour une fois qu'il dit quelque chose de positif sur les francophones.
Moi, je l'ai toujours aimé, Cherry. Écoute, peut-être qu'il en a échappé 2-3 au fil des ans, Mais j'ai commencé à l'écouter quand j'étais jeune. Écoute, fait que peut-être que j'ai.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup trop de portée. Là. Si on s'arrête, on prend un pas de recul, puis on se dit les Américains regardent Don Cherry, puis c'est l'espèce de porte-étendard du hockey canadien. Là. Don Cherry, tu dis le hockey nord-américain, le hockey de la Ligue nationale, tu dis Don Cherry, c'est un grand Canadien, c'est lui qui parle du hockey. Ça me pince le cœur un peu, honnêtement.
Heureusement qu'on vit dans un environnement distinct et on a d'autres porte-étendards comme toi et d'autres gars qui s'expriment sur nos ondes, mais ouais, je comprends le sens que tu y donnes.
Des fois, je trouve que ça vole pas haut.
Non, c'est garde. Mais il reste qu'en tout cas, les amateurs de Québec devaient être bien contents de voir ça.
Ben oui, c'est sûr. Puis, écoute, je veux pas être rabat-joie parce que tout le monde, là, on veut tous avoir une équipe à Québec. Je pense que le fond de son discours était très pertinent, en disant, gars, ils font tout ce qu'ils ont à faire, puis ils le font correctement. C'est quoi le problème? Puis je pense sincèrement, j'écoutais notre ami et collègue Philippe Quentin un peu plus tôt aussi, qui disait que ça envoie à travers l'Amérique du Nord, que Québec, c'est une petite ville où il se passe rien. Là, c'est pas ça du tout. Monsieur Jacob, ça doit faire longtemps qu'il n'est pas venu faire un tour à Québec parce que la ville de Québec est en pleine effervescence. Puis c'est une ville qui a grandi, c'est une ville qui est dynamique. Puis même si c'est un petit marché, on sait très bien qu'il y a des gros marchés qui dorment, comme il y a des gros joueurs qui sont très, très gros puis ils dorment aussi. J'aime mieux avoir un petit joueur dynamique qu'un gros qui dort.
Regarde Jonathan Marchessault, là. On va dire une affaire. Danny, c'est tout le temps qu'on a. Mais on se reparle demain, bien sûr. Petite pause hockey en se préparant pour le match numéro 3. Bonne soirée, mon cher.
Parfait, merci Mario.
Bye-bye. Et au retour de la pause, un mot sur la défaite de Chapovalov à Roland-Garros, évidemment. Et voilà, on revient tout de suite après ces messages.